Vous écoutez le Libre Journal de la France Libre, dirigé par Henri Foucrot, assisté d'Alain, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 8 octobre 2019 de 18h à 21h et réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Vous êtes sur Radio Courtoisie, vous écoutez l'émission Le Libre Journal de la France Libre, dirigé par Henri Foucrot. Aujourd'hui, nous traitons de problèmes climatiques, avec en titre « Le climat, le GIEC et la naïveté française ». Nous recevons ce soir M. Jean-François Auzolle, ingénieur de l'École centrale de Paris, M. Camille Vert, ingénieur de l'École polytechnique, de l'École supérieure des télécommunications, ingénieur au corps des mines et professeur de statistique à l'École supérieure des télécoms de Paris. Nous recevons également M. Jacques Miard, député honoraire, maire de Maisons-Laffitte. Je passe la parole à Henri Foucrot.
Merci Alain. Bonjour à vous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Donc, nous avons voulu parler d'un thème qui semblait à la mode actuellement, c'est-à-dire le climat, le réchauffement climatique. Pour certains, il y en a qui gèlent, d'autres qui ont trop chaud, c'est selon, chacun y fait son marché. Est sorti dernièrement un rapport du GIEC, que nos deux invités, hommes de l'art en la matière, vont vous en parler. Et il y a même le pape François qui s'est mis dans la partie en publiant une encyclique « Loué sois-tu » sur laquelle, dans laquelle il parle beaucoup du climat. Donc, chacun peut se poser des questions dans cette affaire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a danger? Est-ce qu'il n'y a pas danger? Moi, ma religion n'est pas faite en la matière. Et c'est pour ça qu'on a invité deux énormes spécialistes de la question. Monsieur Jean-François Auzolle, un homme de l'art en la matière. Et puis, il n'y a pas très longtemps, monsieur, excusez-moi, le nom de notre deuxième invité.
Camille Vert.
Camille Vert, voilà. Donc, il y a aussi quelque chose qui s'est passé dans cette affaire. Une jeune fille qui a été mise sur le devant de la scène, Greta Thunberg. Alors certains disent qu'elle est irrationnelle, elle est fanatisée, elle est totalitaire. D'autres disent que c'est une pauvre gamine manipulée. Là, pareil, je ne me suis pas fait de religion sur la chose. Je pense à deux histoires. Un, elle semble prendre au sérieux les rapports du GIEC. On en parlera pour savoir si c'est véritablement sérieux ou de l'enfumage. Et puis, aussi quelque chose qui m'a choqué. Elle écoute les politiques, leurs propositions, tout le cinéma qu'ils sont en train de faire sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et puis elle se dit, ils en parlent, et puis après, il n'y a plus rien qui se passe. Monsieur Auzolle, vous prenez la parole peut-être le premier pour nous expliquer un petit peu tout ça. On reviendra après sur le GIEC, si vous le permettez, pour essayer de... Voilà, la partie technique.
Voilà, donc, bien disons qu'aujourd'hui, on est dans une phase... d'une manipulation plus globale qu'il faut, dans laquelle il faut incarner les concepts et d'aucuns ont choisi de choisir Greta pour ce faire. Le fin fond de l'histoire, à mon avis, c'est qu'il faut que tout change pour que rien ne change, à savoir qu'au travers des histoires du climat qui ont commencé à être organisées en 1960, un certain nombre de puissances financières, de grandes fortunes, notamment américaines, ont cherché une méthode au travers de l'ingénierie dite humaine. C'est-à-dire que pour moi, on n'est pas dans l'Anthropocène, mais nous sommes plutôt dans quelque chose qui s'appelle le Bernaysen depuis 1917, à savoir que grosso modo aujourd'hui, la grande stratégie, c'est comment baiser ton voisin sans qu'il s'en rende compte. Donc dans cette affaire... il y avait aussi un problème qui a été réglé du même coup, c'était celui de comment continuer à produire des armes sans que ça dérange personne et comment tuer tranquillement. Alors l'ingénierie humaine qui a été beaucoup développée suite au massacre dit qui a eu lieu dans une mine appartenant au Rockefeller, suite à quoi ils ont fait un tas d'études sur comment on déclenche une guerre, comment on l'arrête, comment on s'en remet pas. Et donc, en fait, à cette occasion, on a été mis en évidence le fait que l'être humain n'a qu'une seule case d'empathie, et que si on la sature avec un sujet donné, on est certain qu'il ne se rebellera pas sur d'autres sujets. Puisqu'en fait, ce qui lui est insupportable, et ce qui nous est insupportable, parce qu'on est fait comme ça, c'est de se trouver en désaccord avec notre empathie. Alors, c'est pour ça que nous avons affaire à un tel bombardement médiatique pour nous expliquer qu'il faut absolument faire du développement durable, étant entendu que lorsque vous déclarez, y compris la charte de l'ONU sur le développement durable, la seule justification, l'axiome de départ, c'est que nous sommes en phase de réchauffement climatique.
Alors, est-ce que sur le sujet... Alors, je reviens un petit peu quand même sur notre petite Greta. Moi, ça m'inquiète, je vais vous dire pourquoi. On est en train de prendre une gamine, on la met sur un piédestal, on la lance en avant. Ça me rappelle quelque chose qui s'est passé. Vous êtes peut-être trop jeune pour vous rappeler de ça, mais un certain Cohn-Bendix, qui avait l'air d'être quand même un type intelligent, qui a été manipulé, regardez ce qu'on en a fait. C'est quand même inimaginable qu'on ne fasse pas la même chose de cette jeune fille, de la mettre en patois, en pâture, aux journalistes et en faire ce qu'on vient d'en faire. Sur le sujet Greta, est-ce que vous, monsieur Verri, vous avez quelque chose à ajouter ?
Elle a été lancée par un financier suédois qui fait dans la finance verte, qui en a fait une administratrice d'une de ses organisations, puis qui l'a remerciée, et elle est pilotée par ce monsieur qui a fait venir les caméras lorsque Greta, pour la première fois, s'est présentée avec un panneau disant qu'elle faisait la grève de l'école. Par miracle, donc tout le monde était bien prévenu, y compris les journalistes. Et elle est lancée aussi par sa mère, qui est, je crois, une comédienne, et son père, qui est un producteur de télé.
D'accord.
Et en plus, elle est autiste, paraît-il. Oui. Donc, sujette à très bien connaître un certain nombre de choses qu'elle a lues, l'air bien mémorisée, mais...
D'accord. Je me tourne maintenant, on va passer sur le problème un peu plus technique. Cette histoire de climat, de climatologie, de climatologue, de tout ce que vous voulez avec du climat, est-ce que vous pouvez nous expliquer, M. Ozol, ce qu'il en est, M. Verheul, après ?
Alors, donc, déjà, l'avantage du climat, c'est que ça fait partie des... Dans l'ingénierie humaine, on recherche des problématiques qui soient communes à l'ensemble de l'humanité, ou dont on veut leur faire croire qu'elles leur sont communes. Alors, le climat, ça a un avantage, puisqu'on vous dit que nous respirons tous l'air de la planète, que c'est notre bien commun, que d'aucuns disent que les Français sont un peu provinciaux parce qu'ils n'ont pas conscience du problème, de l'étendue du problème au niveau mondial, etc. Et ça a un autre énorme avantage, parce qu'aujourd'hui, on est à une période où, pour ça, je disais qu'il faut que tout change pour que rien ne change, c'est-à-dire qu'on est à une période où la plupart des brevets qui ont rapporté beaucoup d'argent dans l'après-guerre, ils sont tous tombés dans le domaine public, que beaucoup de fonds de pension ont expliqué à leurs cotisants qu'ils allaient leur donner mon mot et merveille, mais alors c'est aujourd'hui un petit peu compliqué, parce qu'avec des taux d'intérêt négatifs à terme,
c'est pas
bourse qui n'existe que parce qu'il y a du quantity easing qui ne va pas durer jusqu'à la fin des temps, il faut trouver un certain nombre de redevances que doivent payer l'ensemble de la population à ceux qui montrent le chemin. Et notamment, c'est une façon, c'est une nouvelle forme de néocolonialisme, on va dire, plus facilement supportable, c'est-à-dire qu'on explique dans les différents documents que le savoir-faire concernant toutes les nouvelles technologies sera vendu à un prix, acceptable aux populations qui les utiliseront. Par ce biais-là, on recommence la manip de la crise du pétrole de 73, c'est-à-dire où on a prêté des faux dollars à des tas de populations qui n'ont pas toujours fini de les rembourser à ce jour. Et donc, on a privé ces populations de toute possibilité de capitaliser.
Ils n'avaient pas remboursé puisqu'ils étaient faux.
Oui, mais ils ont quand même remboursé, c'est bien ça le problème.
Bien sûr.
Donc aujourd'hui, on se propose de faire dépenser à l'humanité 89 000 milliards de dollars supplémentaires, excusez-moi du peu. Et quand on veut légitimer ce qu'il est difficilement, et pour qu'il y ait un accord international, la seule légitimité qui vaille au niveau mondial, c'est la légitimité scientifique. Alors le problème, c'est un peu ce que disait Camille tout à l'heure, c'est que en matière de science, les faits sont têtus, et que donc il fallait trouver un moyen d'avoir un consensus international autour d'une entité qu'on a appelée l'IPCC. Alors l'IPCC, c'est quelque chose d'assez particulier, puisque ça veut dire, sauf erreur de ma part, que c'est une assemblée pour étudier les changements du climat. Et quand on traduit en français, les membres de l'assemblée deviennent subitement des experts du climat.
D'accord.
Alors, déjà, ça montre qu'il y a quand même déjà là un début d'enfumage, mais c'est pas fini, parce que, pour faire bref, parce que comme je suis pas très doué, moi j'ai analysé en détail les statuts du GIEC, son fonctionnement, etc. Donc en fait, on vous dit, il y a des centaines d'experts, des milliers, machin, etc. Bon, en réalité, il y a deux personnes dans le GIEC qui décident de tout, au travers d'un certain nombre de procédures, et les braves membres du GIEC, qui ne sont pas plus experts que la plupart des gens en matière de climat, en fait, ils ont le choix entre voter de manière bloquée le rapport qui a été préparé à l'intention ou pas le voter. Alors, il faut voir que bon, l'organisation de l'IPCC, parce que pour moi, parler de GIEC, c'est une escroquerie, l'organisation de l'IPCC, elle est calquée sur celle de l'Organisation mondiale de la météo. À savoir qu'il y a un certain nombre de zones. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que parmi les grandes zones qu'il y a, il y a l'océan Pacifique, grosso modo. Et ce qui est très remarquable, d'autant plus remarquable, bon, j'en parlerai pas ce soir, mais j'ai fait le travail, quand vous prenez les 17 500 remarques et observations, vous apercevez qu'elles, grosso modo, elles proviennent à 80 et quelques pourcents des grands instituts météorologiques mondiaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 000 pays dans le monde qui sont capables de pouvoir prétendre à avoir une infrastructure leur permettant d'étudier le climat, et certainement pas un certain nombre, notamment, d'îles du Pacifique, où déjà, il faut trouver quelqu'un pour l'envoyer. Et alors, ces braves gens, ils sont souvent mis en exergue, on les montre avec leurs pauvres îles qui vont disparaître dans l'océan, etc. Sauf qu'on oublie qu'il y a un très bon site britannique qui donne les relevés de 4 500 marées graves dans le monde. Et comme disait, je ne sais plus, le spécialiste du norvégien des océans, quand on regarde les chiffres, l'eau monte partout dans les océans, sauf sur les plages. Donc ça pose quand même un problème. Alors, ces braves gens, ils sont d'autant plus victimes du clientélisme, c'est que, en fait, bien sûr, ils n'ont aucun moyen financier pour séjourner dans les hôtels 5 étoiles où ont lieu les pince-fesses du GIEC une fois par mois. Et ce faisant, ils sont devenus des experts du climatisé plutôt que du climat, puisque, en fait, pour leur défraiement, ils dépendent entièrement du secrétariat de l'Organisation mondiale de la météorologie nationale. Et s'ils ne sont pas gentils, à mon avis, la prochaine fois, ils viendront à pied.
Attendez, excusez-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Le GIEC, il fait de la recherche ou pas ?
Absolument pas.
D'accord.
Alors le GIEC, si vous voulez, bon, je vais faire simple.
Oui,
je vais prendre
oui s'il vous plaît, François.
Quelque chose, on va parler de sushi, si vous le voulez bien.
C'est quoi ce truc-là ?
Non, mais statutairement, le GIEC, voilà, il est fabricant de sushis. Et il s'est octroyé le droit de ne préparer des sushis qu'avec le bocal dans lequel il a mis ses propres poissons. C'est-à-dire que, par exemple, M. François Gervais, qui est quand même un spécialiste, même un relecteur du GIEC attitré, il a osé faire une remarque, c'est-à-dire dire qu'il y avait un sushi qui avait meilleur goût, mais on lui a dit, monsieur, le sushi dont vous parlez, il n'a pas été préparé à partir des poissons du bocal, donc on n'en parle pas. C'est-à-dire que le GIEC met des boules d'une même couleur dans un bocal. Et alors, vous pouvez être sûr que dans ces conditions-là, on va forcément, en mettant la main dans le bocal, sortir une boule de la bonne couleur.
C'est-à-dire qu'il prend en fait tout ce qu'on lui apporte.
Non,
pas
du tout. Le GIEC sélectionne un ensemble de textes.
Mais c'est qu'on lui apporte, c'est ça que
non,
je veux
non,
dire.
Non, 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 qu'on lui apporte ou qu'on lui apporte pas.
S'il ne fait pas de recherche.
Non, il ne fait pas de recherche.
Attends,
non,
mais dans le micro.
Il fait une recherche, on va dire, documentaire.
Oui.
Et donc, il prépare des résumés à l'intention des décideurs.
D'accord.
Donc, à partir du moment où le GIEC ne choisit que des textes qui vont dans la ligne du parti, il est très étonnant qu'il puisse trouver un texte qui n'aille pas dans la ligne du parti. Donc, de ce fait-là, c'est pour ça qu'on donne l'illusion d'une grande discussion, et en fait, il n'y a pas du tout de discussion. Non, parce qu'en plus, quand vous regardez statutairement les droits des responsables des groupes de lecture, etc., à la sortie, le secrétaire général du GIEC et la présidente du groupe de travail numéro 1, on va quand même dire un petit peu peut-être comment est organisé le GIEC, il y a trois groupes de travail. Il y en a un dit scientifique, aujourd'hui présidé par une Française, Marie-Masson Delmotte, une camarade d'ailleurs. Et dans chaque groupe, vous avez un représentant d'un pays riche et un représentant d'un pays pauvre. Charge au pays riche de fournir ce qu'on appelle le groupe d'appui, qui est un ensemble de compétences qui permettent de discuter du problème. Encore une fois, dans le monde, il y a, je ne sais plus combien, il y a 5 ou 7 là-bas, entités qui peuvent prétendre à cela. Et donc, il n'y a pas de possibilité de faire entrer une nouvelle idée dans le GIEC. Alors en plus, le GIEC a dit que pour être membre, il faut aller être climatologue pour rentrer, etc. Alors climatologue, c'est très très drôle.
Alors c'est quoi
un climatologue, c'est un truc qui n'existe pas. Camille et moi-même avons la chance d'avoir fait des écoles d'ingénieurs d'un certain niveau qui sont des écoles pluridisciplinaires. On peut dire, alors je ne sais pas ce qu'en pense Camille, sur le nombre de disciplines qui sont en cause, enfin qui sont impliquées dans la compréhension des mécanismes du climat. Je ne sais pas, il y en a
une vingtaine.
Une vingtaine, hein, c'est ça? Oui, voilà. Donc en fait, parmi tous les gens qui parlent du climat, la plupart maîtrisent 2 ou 3 techniques ou sciences. Et donc, ils font, c'est comme toute l'humanité, quand on ne savait pas expliquer pourquoi il y avait la foudre, c'était les dieux qui n'étaient pas contents. Donc, ils bricolent des textes avec leurs propres connaissances. Et moi, avant d'avoir la chance de rencontrer Jean-Luc Chesneau, qui m'a fait connaître le texte qu'a écrit Camille, on va dire que la bêtise n'a pas de parti, c'est-à-dire que j'ai lu des textes pour ou contre le réchauffement climatique. Le problème, c'est qu'ils étaient écrits par des gens ayant un champ de connaissances beaucoup trop étroit, et que, grosso modo, à la 2e-3e page maximum, vous vous dites, attends, l'autre, il est en train de nous réinventer. La physique.
Si, deux choses sur le GIEC, parce qu'après, on va passer quand même au climat, parce que ça va nous intéresser. Le GIEC, si j'ai bien compris, vous y croyez pas un instant. Ça ne sert pas à grand-chose.
Ah ben non, le GIEC, c'est...
Sauf que, quand même, sur le budget et la finance, qui est-ce qui finance tout ça?
Alors, ce qui coûte cher, c'est les groupes d'appui.
Qui finance?
Alors, les finances, il y a des contributeurs.
Donc tous les États, normalement.
Les Nations Unies.
Oui, sauf les États-Unis, ils ne financent plus.
Non, mais si vous voulez...
Attendez, j'ai une raison pour vous poser la question.
Mais si vous voulez, le GIEC, structurellement, il n'a pas des frais énormes.
Oui, mais quand même, pourquoi je vais en arriver là? C'est pour une bonne raison. C'est-à-dire que Trump t'a dit, c'est fini, on ne paye plus. Bon.
Ouais.
Mais il fallait compenser.
Non, mais ce n'est pas très grave.
Et le naïf... Ah si, moi je vais vous expliquer pourquoi c'est grave. Le naïf de la question, c'est Macron. C'est la France qui paye aujourd'hui pour 15% du budget du... Alors, c'est grave pour moi, parce que c'est quand même mes impôts qui passent dedans.
Attendez, vous payez beaucoup plus que ça actuellement par rapport au budget du GIEC, puisque c'est la France qui finance le groupe d'appui numéro 1. Donc, par conséquent, la dépense, si vous voulez, il y a une dizaine de personnes dans le secrétariat du GIEC, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, le reste des frais, il est pris en charge par le secrétariat de l'Organisation mondiale de la météorologie. Donc, c'est pas, si vous voulez, ils n'ont pas des frais structurels particulièrement gros. Par contre, ils peuvent nous coûter extraordinairement cher. Ça, c'est bien le problème. Mais sur le fond, c'est pas des gens qui coûtent très cher.
Est-ce qu'on peut peut-être serrer? Parce que que vous dites véritablement sur le GIEC, c'est qu'il alimente toujours dans le même sens.
Voilà.
C'est-à-dire que votre chouchi du bocal, soyez plus précis, c'est-à-dire que seuls ceux qui vont dans le sens où l'idéologie dominante prime sont pris en compte.
Tout à fait, ils ne sont résumés, ne sont traités que des documents qui émanent de copains, de gens qui sont connus, etc. Vous ne pouvez pas, par exemple, ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est que il y a quelque part une pétition signée en France qui oblige à ce que les textes écrits par Camille Vert soient mis dans le bocal.
On peut le dire sur Radio Courtoisie.
Ah, je pense qu'il faudrait... Bon, parce que si vous voulez, encore une fois, je pense que la meilleure synthèse que j'ai lue, mondialement parlant, c'est quand même lui qui l'a écrite.
Voilà. On va y revenir. Pourquoi j'insiste sur cette histoire du budget et avec la participation de la France qui est quand même... importante, c'est parce que si j'ai bien compris le rapport que personne n'a lu, parce qu'en définitive, il n'y a que des petits résumés qui sortent, ils sortent en anglais uniquement, pas en français.
Oui.
C'est quand même un scandale. Attendez, on est en train de financer quelque chose et on ne veut même pas qu'il
paraisse en France. Avec Macron, il prétend annoncer l'anglais, surtout quand il se trompe.
Maintenant, on va peut-être discuter un peu au fond des choses. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur ce qui vient d'être dit, Monsieur Vert ?
Le GIEC a dans ses statuts l'étude du réchauffement climatique dû aux hommes. Donc il n'est pas étonnant qu'il se focalise sur ce qui est sa définition, qui est de trouver un réchauffement climatique au CO2.
Alors,
et ça a été préparé, donc, comme je le disais tout à l'heure, depuis 1965, premier document publié par la présidence des États-Unis, rédigé par un océanographe avec deux complices, qui a donné en 1967 à l'invention, si je puis dire, d'une version un peu modernisée et à peine de l'effet de serre, entre guillemets, par la météorologie américaine, qui a donné lieu à toutes sortes de calculs de financement d'entreprises et de financement d'universités. Et comme les histoires du Club de Rome se sont avérées fausses dès 1992, on devait, en l'an 2000, ne plus avoir aucune ressource. Le trou d'ozone, qui a été lancé en 1984, s'est avéré être profitable pour les brevets de Dupont, puisque les CFC n'étaient plus brevetables, le brevet était expiré. Le trou d'ozone, donc, n'existe pas plus, et pas moins qu'en 1984.
Oui, on n'entend plus parler de ça.
Le dépérissement des forêts à cause des pluies acides a été un bobard lancé en Allemagne par le professeur Ulrich de Göttingen en 1980. Et au bout de 10 ans de recherche, les forestiers, aussi bien européens qu'américains, ont conclu que les forêts se portaient très bien et qu'elles adoraient d'ailleurs les pluies avec de l'acide nitrique. Elles ont horreur de l'acide sulfurique, mais l'acide nitrique leur va très bien. Ensuite, on a toutes sortes d'histoires folles sur les produits chimiques qui sont démenties par les observations, mais on continue. Malgré 40 ans de glyphosate, on continue à vouloir interdire le glyphosate. Alors qu'il est connu depuis 40 ans. Alors, donc, toutes ces alarmes se sont évaporées dans le temps, sauf, évidemment, le réchauffement climatique, qui, lui, est imperceptible, puisqu'on trouvera toujours, chaque année, quelques événements climatiques extrêmes pour terroriser les gens. Oui, il y a un cycle des Antilles. Mais il y a une centaine de régions météorologiques. Et donc, vous aurez dans chacune de ces régions un événement, enfin, dans l'ensemble de ces régions, vous trouverez toujours un événement de récurrence 100 ans.
Tout à fait.
Puisque vous avez 100 régions.
Vous vouliez intervenir aussi.
Oui, juste, je voulais dire qu'en fait, dans l'organisation du GIEC, il y a le premier groupe de travail dont on parlait tout à l'heure, qui est le groupe de travail numéro 1, qui a une vocation soi-disant scientifique. Le deuxième groupe de travail, c'est donc, on étudie les conséquences d'un réchauffement climatique avéré, sans trop savoir s'il y en a ou pas. Le troisième groupe, on invente des machines à gaz, des usines à gaz pour refroidir le climat. Alors, il y en a qui veulent peindre les toits, les machines, enfin, filtre à air et tout le bazar. Et alors, par contre, il y a un petit groupe, le groupe spécial, qui est un petit groupe un petit peu, on va dire, à vocation trotskiste, on identifie tous les pollueurs de la planète qu'on pourrait taxer. Et ça, on n'en parle pas trop de celui-là, mais c'est quand même c'est un travail de délation sordide, puisque de toute façon, le fait n'est pas avéré. Alors, ce qui est intéressant par rapport à la manière dont des gens ont été convaincus, parce qu'en fait, le GIEC, non seulement il choisit les textes dont il va parler, mais ensuite, il choisit les hypothèses. Donc, le GIEC a choisi comme hypothèse de dire que le soleil n'influençait pas le climat.
Voilà, c'est la question que je voulais vous... Justement, je voulais aller là-dessus.
Alors, ça, si vous voulez... on va peut-être en reparler un peu quand on va parler du mécanisme. Mais ça, si vous voulez, c'est très très fort. Parce que à partir du moment où vous-même choisissez vos hypothèses...
Oui, bien sûr.
Alors là, vous êtes sûr...
Bien sûr. Hein,
je voudrais revenir sur ce que vient de dire notre ami Camille. Parce que j'étais un des acteurs de cette histoire du CFC dans les aérosols. J'avais été envoyé, j'étais à la direction des affaires juridiques, au PNUE, donc le plan des Nations Unies pour l'environnement, à Genève, où il y avait eu une offensive américaine pour bannir le CFC des aérosols parce que, bien évidemment, comme vous l'avez dit, le brevet venait à échéance. Bien. Les experts des Nations Unies nous ont montré à l'époque, avec, je dirais, moult documents, que la fameuse trou dans l'ozone, on était donc en 84, était plus petit que le trou dans l'ozone au début du XXe siècle.
C'est tout à fait exact.
Et donc, il n'y avait pas de danger, parce qu'on nous disait à l'époque, attention, on va crever comme des sardines, on va griller comme des sardines à cause de ça. Et en réalité, effectivement, tout était une question de brevet pour notamment empêcher L'Oréal de mettre du CFC dans les aérosols. Voilà. Dans le même temps, il faut savoir que les Américains, bien sûr, ne faisaient rien par rapport aux frigos américains. Voilà. Donc, ce que vous dites, ça m'a réjoui parce que j'en étais l'acteur. Et j'avais été envoyé pour bloquer les Américains. À telle enseigne que je me suis fait une réputation chez les Yankees qui ne s'est jamais démentie. Et j'ai été assez raide. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais faire.
Alors, dites-moi, ce problème de climat, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça marche? Moi, naïvement, et j'en reste à mes travaux scolaires, le soleil réchauffe la planète, point barre. Mais il semblerait, d'après ces gens, ces spécialistes, que ce ne soit pas tout à fait vrai. Vous voulez commencer, monsieur Rey? Monsieur Vert, pardon.
Parlez près du métro, cher ami, parce que...
Et du micro aussi.
Merci. Premier point, le soleil réchauffe la surface.
Heureusement.
Heureusement. Et quand il y a un nuage, la partie infrarouge du flux solaire n'est plus reçue, et vous trouvez qu'il fait un peu plus frais.
D'accord.
La perte, l'évacuation de cette chaleur reçue du soleil, surtout dans la zone intertropicale, entre les tropiques, c'est là qu'il y a effectivement le plus de soleil, se fait par évaporation de l'eau de mer, puisque 71% de la planète, c'est les océans, et vous avez sur toutes les surfaces végétalisées de l'évapotranspiration qui est dégagée par les plantes lorsqu'elles pratiquent la photosynthèse, ce qui est leur raison d'être. Donc c'est de l'évaporation, accessoirement un peu de convection, qui refroidit la surface du globe, que ce soit sur Terre et surtout sur mer.
Et sur mer.
Comment se refroidit la planète elle-même? Elle se refroidit par rayonnement thermique infrarouge. Donc là, ma main rayonne à une certaine température, elle est à 33 degrés, et elle rayonne, je ne sais plus combien, 500 watts par mètre carré. Ma main gauche rayonne aussi 500 watts par mètre carré. Mais un transfert de chaleur par voie radiative, c'est la différence entre ce que la main gauche envoie à la main droite et la main droite envoie à la main gauche. Les banquiers connaissent ça, c'est comme entre deux comptes en banque.
Ils connaissaient parce que ça a changé. Excusez-moi.
Et donc le refroidissement se fait par le haut de la vapeur d'eau, qui est vers 9 km, essentiellement. Et c'est là, donc, que la planète se refroidit. Et on a inventé, dans les années 1965, 67 et autres, à cette époque-là, des histoires au CO2, où on imaginait que le CO2 agissait tout seul, qu'il diminuait ce rayonnement du globe vers le cosmos, ce qui est vrai. Quand on double la teneur en CO2, on refroidit un tout petit peu le rayonnement du globe vers le cosmos, mais en oubliant totalement la vapeur d'eau. La vapeur d'eau fait 90% du rayonnement. Donc, on oublie les 90%, on dit, la vapeur d'eau, elle est subordonnée au CO2, et quand je mets plus de CO2, il va y avoir, et là vous avez encore un autre sophisme, il va y avoir moins de rayonnement vers le cosmos, donc il n'y a qu'un faucon, donc il faut que la planète se réchauffe, sans quoi il va y avoir moins de rayonnement vers le cosmos. Plus. Voilà. Alors, c'est invalidé par les observations, par 60 ans d'observation.
D'accord. Vous voulez intervenir,
monsieur? Alors voilà, je veux dire qu'en fait, un des discours qui a été tenu pour justifier ça, cette histoire dans les salons où l'on cause, c'est de dire, voilà, la Terre se réchauffe, mais alors le soleil ne varie pas, les volcans, ce n'est pas suffisant, etc. La seule chose qui varie, c'est le CO2. Donc le coupable, c'est le CO2. C'est une grande réflexion intellectuelle qui a prévalu dans les années qui ont précédé la création du GIEC, etc.
Alors même qu'on a toutes sortes de mesures de l'insolation en surface, depuis 1920 à Stockholm, depuis les années 40 en Europe occidentale et aux États-Unis, qui montrent que vous avez eu moins d'insolation en surface entre 1940 et 1975, plus entre 1975 et 2000, et que ça, le réchauffement observé depuis 1980 s'explique très simplement par le fait qu'il y a un peu plus d'heures de soleil.
Alors,
on a un auditeur, on va lire son message parce que ça correspond à ce que vous dites actuellement, il confirme.
Oui, alors là, c'est sur un événement récent. Un auditeur me fait part qu'il y a une pétition signée par 500 scientifiques, dont 40 Français, et venant de 13 pays, qui ont déclaré qu'il n'y a aucun réchauffement climatique. Donc,
est-ce qu'on pourrait être un peu plus précis?
Alors, oui, je crois qu'il y a quand même un élément très intéressant qui est connu depuis 1750 à peu près par tous les spéculateurs anglo-saxons et qui se trouve confirmé dans les faits, je crois indépendamment, mais j'en suis pas sûr, par une université japonaise et une université finlandaise. Tout ça... reprenant à la base les travaux de Svensmark. Alors, ce qu'avaient remarqué les spéculateurs, c'est que, donc les acheteurs à terme des céréales, c'est que plus il y avait de taches solaires, plus il y avait de blé, et moins il y avait de taches solaires, moins il y avait de blé. Donc, ils payaient des gens pour leur étudier l'évolution des taches solaires.
C'est pas bête.
Alors...
C'est l'astronome Herschel qui a publié ça en 1800.
Voilà.
En 1800,
parce qu'on commençait à l'époque à avoir des chroniques du prix du blé en Angleterre.
D'accord.
Et on commençait aussi, depuis Galilée, à avoir une chronique des taches solaires. Et Herschel, qui avait un grand télescope, a dit, ben oui, il y a une superposition.
D'accord.
Du prix du blé, avec des famines que l'on sait au cours du XVIIe siècle et du début du XVIIIe, et les événements solaires observés par les astronomes.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Svensmark, c'est ça, qui un Danois, c'est intéressant parce que les Danois ont a priori une relation avec l'astronomie un peu particulière, puisque Tycho Brahe, sentant sa fin prochaine, a fait passer ses observations, parce qu'il avait un souverain qui lui avait payé deux observatoires, à Kepler, et c'est grâce aux données fournies par Tycho Brahe que Kepler a pu formaliser sa théorie sur les trajectoires elliptiques. Mais là, en l'occurrence, M. Svensmark, il a dit comme le GIEC, lui, il a dit en fait, il y a quand même un truc qui varie, c'est l'activité solaire. Et comme a priori, l'activité solaire, c'est à peu près la seule source d'énergie du système solaire, il faudrait peut-être qu'on essaie de comprendre comment ça fonctionne.
Bon, ben.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, dans son labo, il a bricolé un caisson dans lequel il a mis une atmosphère qui ressemble à celle qu'on a, on va dire, en haute altitude, juste en dessous de la tropopause.
Et puis, expliquez-nous ce que c'est.
Alors, la tropopause, c'est la limite au-delà de laquelle il n'y a plus de phénomènes météo de la planète qui peuvent se propager vers le haut.
D'accord.
C'est à quelle distance?
Alors, ça dépend des endroits. C'est
entre 6 km dans les zones polaires et 16 km à l'équateur.
Voilà, à l'équateur.
C'est la zone dans laquelle les températures vont en décroissant.
D'accord.
Entre, par exemple, 30 degrés en surface dans la zone intertropicale ou équatoriale et moins 90 degrés à la tropopause.
Alors, Svensmark, donc, il a mis son caisson, il a mis dedans de la vapeur d'eau, parce que la vapeur d'eau, quand on dit les nuages, c'est de la vapeur d'eau, non. Les nuages ne sont pas de la vapeur d'eau, les nuages sont des gouttelettes d'eau condensée. Ce qui est quand même très différent, parce que la vapeur d'eau est transparente.
Oui,
sinon,
oui,
on n'arriverait pas à voir de l'autre côté de la table. Donc, le Svensmark, il a fait son mélange, etc. Et il a chronométré le temps au bout duquel apparaissaient des noyaux de condensation. Donc, les noyaux de condensation, c'est ce qui donne petit à petit la formation des nuages. Alors, il a refait l'expérience une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, vingt fois, trente fois, et puis il a toujours trouvé le même temps. Alors après ça, il s'est dit, bon, ben maintenant, comme a priori il se passe quelque chose au niveau cosmos, il s'est dit, maintenant je vais mettre du plomb sur mon caisson, là, puis je vais regarder ce qui se passe. Et une fois qu'il a eu mis du plomb, ben, il ne se passait plus rien. Alors, le Danemark ayant financé une partie du LHC, il a négocié avec son autorité de tutelle de disposer d'un temps d'expérimentation. Et lui, et donc il a demandé à ce que, au LHC, on reproduise la même expérience avec différents types de rayons cosmiques, puisque le LHC est capable de fabriquer un rayonnement cosmique. C'est on va dire, de base, c'est un proton qui se déplace à 300 000 km/s. Et donc, ils ont fait l'expérience. Alors, c'est assez drôle parce que le directeur du LHC était un petit peu gêné. Donc, il a oublié dans son rapport final de mettre le graphique qui montre que, quel que soit le type de rayonnement utilisé, la cinétique d'apparition de ces gouttelettes de condensation est à peu près la même. Alors, en y réfléchissant plus, donc, Smassmark a émis l'hypothèse suivante, c'est que le Soleil émet des protons dans un volume qui fait à peu près 10 fois celui du système solaire. Ces protons, plus l'activité solaire est grande, et plus le flux de ces protons est important. Ces protons qui sont entre guillemets à basse vitesse dévient les... Je ne suis pas d'accord, Camille.
Bon, on a déjà une opposition dans le studio.
Bon, voilà. Bah donc, une explication avancée, c'est que le rayonnement électromagnétique du Soleil protégerait la haute atmosphère des effets des rayons cosmiques et que donc les nuages seraient moindres, il y aurait moins de nuages en période de grande activité solaire. En tout cas, ce que viennent de démontrer, ce que viennent d'affirmer les deux laboratoires, le japonais et le finlandais, c'est que tant qu'on ne sera pas capable de modéliser la formation des nuages dans un quelconque modèle mathématique, on ne peut prétendre en aucun cas avoir une idée sur le climat.
Dites-nous ce que vous en pensez, parce que je vous ai vu faire la grimace.
Non, c'est des détails sur la protection faite par le champ magnétique du Soleil de la Terre. Il protège la Terre des rayons cosmiques en défléchissant ces rayons cosmiques et les envoyant en dehors du système solaire. Mais il est clair que tant que l'on ne sait pas comment se constituent les nuages progressivement et les effets électrostatiques sont très importants pour la croissance des gouttelettes entre deux molécules d'eau et puis une gouttelette qui peut survivre à l'effet de la tension de surface. C'est des points de physique élémentaires, mais bon. La tension superficielle fait disparaître les gouttelettes tant que les gouttelettes n'ont pas atteint un certain volume.
D'accord.
Et par conséquent, elles ne peuvent croître que si elles sont aidées soit par des aérosols, soit par des charges électrostatiques.
D'accord.
Et il a été prouvé, et il est maintenant prouvé, et par la théorie, et surtout par des expériences, l'importance de ces dépôts de charges électrostatiques pour la croissance de ce qu'on appelle des noyaux de condensation des nuages.
D'accord.
Par conséquent, quand il y a plus de soleil, un soleil magnétiquement plus actif, oui, il défléchit un peu plus les rayons cosmiques, vous avez moins de noyaux de condensation et, en principe, un peu moins de nuages.
D'accord. Donc le blé pousse mieux.
Exactement.
Donc le blé pousse mieux.
Parce que c'est une céréale qui vient du Moyen-Orient, elle aime bien le soleil.
Ouais. On passe aux auditeurs, si vous permettez.
Oui, alors quelques questions ou réflexions d'auditeurs ou commentaires. Premièrement, avant sa mort, un certain Roger Revel, voilà, l'un des fondateurs du GIEC, a confié que le prétendu réchauffement climatique est sans intérêt. Le gaz à effet de serre est une faribole inventée par la météo US, une mystification. L'idéologie du réchauffement est une science nulle.
Bravo.
Je ne puis que souscrire. Donc Revel.
Nos deux spécialistes souscrivent.
Allez-y.
Roger Revel donc est l'auteur du rapport de 1965 À l'époque, il n'émettait pas d'avis clair sur la physique de l'effet de serre. Par contre, il a falsifié le cycle du carbone. Ah. En expliquant que l'océan, qui est le principal réservoir de carbone, oui, n'avait pas, quasiment pas d'effet. C'est un peu comme si on disait que pour le cycle de l'eau, qui est assez voisin de celui du carbone, d'une certaine manière, l'océan ne servait pas. Alors, c'est lui qui fait le gros de l'évaporation. Et la même chose pour le CO2, c'est l'océan qui fournit le gros du CO2 dans sa zone intertropicale, là où il est chaud.
Attendez, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Un scientifique qui dit que l'évaporation peut venir de n'importe où, sauf des océans, ça colle plus, là.
Non, c'est la comparaison. Pour l'eau, il n'ose pas dire ça. Pour le CO2, il le dit.
D'accord.
Et il le dit avec des arguments totalement vicieux, où il a simplement manipulé une équation en faisant disparaître l'effet de la température. Donc, on a ce qu'on appelle la relation de Revel, que vous trouvez partout dans tous les textes du GIEC. D'accord. Et des défenseurs du GIEC, qui expliquent qu'il n'y a quasiment pas d'échange entre l'océan et l'air, pas d'échange de CO2.
Oui.
Voilà. Mais c'est simplement parce qu'ils ont escamoté, d'accord, une dépendance en fonction de la température, et qui, d'accord, n'est pas une petite dépendance, puisque c'est une puissance 12,5 de la température absolue. Donc ça a disparu. Et le GIEC continue à s'arc-bouter sur les idées de Revel, d'accord, à savoir, mettez-moi l'océan hors circuit.
C'est
un peu comme si on mettait l'océan hors circuit pour la vapeur d'eau. C'est à peu près aussi gros.
C'est énorme.
Le GIEC définit ses conditions.
Oui, c'est ce que vous expliquiez en fait, voilà, au départ.
Donc à partir du moment où vous...
Et il veut trouver ce qu'il cherche.
Vous biaisez les règles du jeu.
Autre chose.
Voilà, parce que, attention, il ne faut pas oublier que dans tous les textes des Nations Unies, le réchauffement climatique est l'unique justification à toutes les politiques migratoires, d'accord, tout ce qu'on veut, hein, et de développement dit durable. En fait, le problème du... C'est ce que je disais tout à l'heure, le problème du développement, ce n'est pas le développement durable, c'est le bénéfice durable, parce qu'il faut que, pour les investisseurs, il y ait des capitaux immortels. Et il faut que tout change pour que rien ne change. C'est-à-dire que ce soit toujours les mêmes qui grignotent.
Donc Revel, au moment de... peu avant sa mort, a co-signé un article disant « J'ai peut-être été un peu loin. »
Ah, quand même.
Parce qu'il a été extraordinairement actif, c'est le mentor de Al Gore, hein. Il a été extraordinairement actif aux États-Unis, en tant que professeur à Harvard, ensuite, pour le lancement... dans les cercles scientifiques américains, de cette nouvelle climatologie.
Autre question d'auditeur.
Oui, alors ce sont des commentaires. Quelle est la réelle intention cachée derrière le grand battage médiatique?
Ah, oui, sous, voilà la question. Des sous.
Des sous.
Bon, voilà.
Alors ça, on peut...
Et je peux vous dire...
On peut illustrer par des exemples. Hein.
Quelques, d'accord, chiffres. Il y a 1 000 milliards de dollars, en gros... de produits vendus au titre tels que des éoliennes, tels que des panneaux solaires. Déjà un chiffre énorme. Il y a 2 milliards de dollars en frais de lobbying et en propagande. Aux États-Unis, vous avez simplement 2340 lobbyistes recensés. Plus 300% par rapport à il y a 5 ans. Sur uniquement ce thème du climat.
Alors il y a...
L'industrie du renouvelable, comme je l'ai dit, c'était en 2017 928 milliards de dollars, maintenant un peu plus de 1000.
Alors, il faut voir qu'il y a quelque chose dont personne ne parle, et que j'ai découvert quand je cherchais à comprendre par où ça passe, c'est l'organisation qui s'appelle le World Green Building Council. Alors ça, il y a à peu près 50 000 membres, on va dire, il y a à peu près autant de conseils particuliers que d'entreprises et de villes. Des villes qui cotisent à hauteur de plusieurs millions de dollars par an, hein, pour appartenir et prêcher la bonne parole. Alors cette association à but non lucratif, entre guillemets, s'est donnée pour une mission d'aider la planète à ne pas dépasser 2 degrés à l'horizon 2050. Alors qui est dans ces associations? Eh bien tous les producteurs de matériaux du monde. Qui dirige l'association? Ces 10 sociétés dont vous trouverez la liste sans problème sur Internet, parmi lesquelles on a Saint-Gobain et un certain nombre de banquiers. Alors, ce qui est un peu ennuyeux dans cette affaire, c'est que les membres du World Green Building Council font partie de toutes les commissions réglementaires et définissent quelle est la quantité d'isolant qu'il faut mettre pour sauver la planète. Alors, il y a l'ART 2000, je ne sais plus combien, 19, 17, qui a été mise entre parenthèses pour le moment. C'était assez drôle parce que la ville de Paris a organisé des réunions d'information dans les mairies. Et les seuls stands qu'il y avait dans ces mairies, c'était des stands des banques parce qu'on savait que le commun des mortels ne pouvait pas financer ce qui allait lui être demandé. Alors, moi, par ailleurs, je m'occupe d'un groupement de 70 000 mètres carrés de bureaux. Alors, comme j'avais quelques excités du réchauffement climatique et des mesures à prendre, j'ai fait chiffrer des mesures, on va dire, d'isolation, de tout ce qu'on veut, pour améliorer tout ça. Le taux de retour le plus petit, il était de 21 ans, on est monté à 41 ans. Alors, ça a calmé beaucoup de monde, parce que d'un seul coup, là, ils se disaient, bon, ben oui, vu le tarif, on va peut-être réfléchir un peu. D'autant qu'aujourd'hui, nous avons un prix de l'énergie qui est maintenu à un prix très artificiellement haut, puisque on neutralise. Parce que le pétrole n'a pas d'avenir, mais quand vous regardez les conflits de la planète, ils sont tous sur des champs de pétrole. Hein.
Mais surtout, le présent a de l'avenir. Le présent a de l'avenir.
Donc, alors, ce qui est intéressant en plus, si vous voulez, c'est que la famille de M. Brice Lalonde, M. Brice Lalonde, il a une petite maman qui s'appelait Forbes. Alors, Forbes, c'est pas Forbes des éditions. C'est Forbes, dont l'ancêtre a fait fortune dans le trafic de l'opium. Et M. John Kerry, qui est son cousin germain, puisqu'ils ont des mamans qui s'en servent, la veille de venir à la COP21, le Kerry and Heinz Investments a fait une déclaration de possession d'actions dans plus de 101 compagnies liées au pétrole pour $1 milliard. Monsieur Brice Lalonde a bénéficié de la compagnie Arco, d'une dotation d'argent très importante pour lancer Europe Écologie Les Verts. Et lui-même, en fait, de par sa position, quand il est rentré dans l'histoire du pétrole sans plomb, parce que le gros avantage du pétrole sans plomb pour les pétroliers, c'est que vous en consommez 7% de plus à puissance égale. Donc, Brice Lalonde a permis, d'une certaine manière, l'augmentation de la consommation de pétrole. Et ça tombe bien parce que, grosso modo, sa famille, elle y est, a priori, très bien implantée. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils ont vendu leurs actions hier, je ne sais pas. Mais en fait, ce sont des informations qui semblent assez sérieuses et qui traînent.
Alors, on est envahi là par les messages, et des messages extrêmement intéressants qui vont, en définitive, je n'ai même plus besoin de discuter ni de vous poser de questions. Les auditeurs vont vous les poser, vous allez voir, c'est voilà. Très intéressant.
Question, commentaire. Alors, un premier commentaire, là.
Oui, ça, c'est. Ça.
Une réaction. Derrière Greta, il y a surtout Soros. Deux points d'exclamation.
Ben oui, bien sûr.
Bon.
Soros est surtout actif pour la rébellion de l'extinction qui a donné lieu à des démonstrations bizarres et à Paris, hier, et à Londres. Et à Londres, la police a fait un raid dans le magasin où ils conservent tout leur matériel audiovisuel et de propagande.
Un autre commentaire. Merci de cette émission basée sur la science. Notre regretté Jean Ferré n'ignorait pas les cycles solaires.
Alors c'était le fondateur et le président de Radio Courtoisie.
Voilà. Il est bien regrettable qu'il ne soit pas là aujourd'hui pour apporter la contradiction à toutes ces inepties. Un autre commentaire. Premièrement, pour info. Les taches solaires sont sujettes à un cycle de 11 ans entre deux maxima et donc alternativement entre deux minima.
Alors attendez, on répond à cette question technique, en fait, y a l'un ou l'autre.
La question technique est oui, il y a un cycle de 11 ans et en fait de 22 ans parce que c'est le champ magnétique qui se retourne. Donc le champ magnétique est max. Pendant une phase de 11 ans, le champ magnétique a une certaine direction, puis il repasse par zéro. Et pendant la phase suivante, il a la direction inverse.
Champ magnétique de la Terre.
Du Soleil.
Du soleil.
Et qu'est-ce qu'il fait changer
et alors, il y a des gens qui ont réussi à établir, mais là on est dans le domaine de la statistique un peu floue, des corrélations entre les pluies en Afrique du Sud, par exemple, et le cycle de 22 ans, qui est très important pour les climats méditerranéens, où il ne pleut pas en été, et où il ne pleut donc dans les autres saisons, et avec des variations très considérables d'une année à l'autre, selon le cycle solaire. Et vous avez donc ces constatations qui sont actuellement reprises en Australie, puisque l'Australie a aussi, sur sa partie orientale, un climat méditerranéen, c'est-à-dire sujet à de très fortes variations d'une année à l'autre du régime des pluies, pour essayer d'éclaircir.
Ils sont forts, hein, nos auditeurs.
Et les Australiens commencent à, en utilisant des techniques dites d'intelligence artificielle, enfin, je passe sur des détails, à essayer de prévoir les précipitations, ce qui est important, oui, évidemment, et pour le remplissage des réservoirs qui permettent de tenir pendant la saison sèche, et pour les agriculteurs, ah, les agriculteurs australiens. Bien sûr.
J'ai remarqué que dans la pétition de 500 scientifiques, il y avait beaucoup d'Australiens par rapport à la population, mais je pense que ça doit être le pays.
Je voudrais insister sur cette histoire, parce que j'ai vu passer cette information des 500 scientifiques.
Oui, j'en suis.
Comment se fait-il que véritablement ça n'arrive pas à percer? Parce que 500 scientifiques, c'est 500. Poussin du jour.
C'est pas la seule pétition qu'il y a eu. Il y en a eu des.
Non, mais là, c'est plus que des pétitions.
Il y en a eu beaucoup.
Non, il y en a eu beaucoup de pétitions avec.
Mais même avant celle-là, il y avait une pétition italienne, alors que les Italiens ne sont pas organisés en climato-réaliste. Les Italiens, ils ont trouvé une bonne 200 professeurs d'université pour signer une pétition.
Et chez nous, en France, combien y a-t-il?
On a une quarantaine.
Quarantaine.
Sur laquelle l'Académie des sciences, certains se sont fait chahuter, hein, si j'ai bien compris.
Vous avez le professeur Courtillot et le professeur Jean-Claude Bernier, un chimiste, qui a publié dans la revue de la Société chimique de France, je crois, quelques articles amusants sur le réchauffement climatique.
Alors, autre question, Alain.
Alors, autre question. Que répondre aux réchauffistes au sujet de la fonte des glaciers et de la banquise?
Ah, c'est important, ça.
Alors, la banquise, il y a moins de banquise qu'il y a quelques années. Mais, par exemple, pour la banquise autour de l'Islande, les chroniques danoises donnent des informations sur la couverture de glace, permettant ou ne permettant pas l'accès à l'Islande, depuis l'an 1000. On a reconstitué, donc, au Moyen-Âge, entre 1000 et 1200, c'était à peu près libre de glace. Puis ça a été entièrement couvert de glace, même avec un habitant du Groenland qui s'est retrouvé en Écosse. Au milieu du XVIIIe siècle.
Si vous avez une baisse des banquises, vous avez une montée des eaux obligatoirement.
Que ça, c'est le glaçon dans votre verre de whisky. Le glaçon fond, mais le niveau ne bouge pas. C'est la formule d'Archimède. Par conséquent, la fusion des banquises n'a aucun effet sur le niveau des eaux. Contre, la fusion des glaciers, il faut regarder ce dont il s'agit.
Attendez, c'est important ce que vous êtes en train de dire, parce que tous les journaux répètent le contraire en ce moment.
Sur les banquises? Non, les banquises n'ont aucun effet sur le niveau des mers.
C'est important, parce que j'ai lu un article il n'y a pas longtemps, comme quoi, à New York, ils voulaient construire un truc pour se protéger de la montée des eaux.
Mais cela fait 40 ans que M. James Hansen, qui a été mis en scène par Al Gore en 1988, à peu près au moment du lancement du GIEC, prédit des montées des eaux de plus 3 mètres, puis c'est plus 5 mètres. C'était plus 3 mètres pour 2030. Ça continue à être 2 mm par an. Parce qu'à New York, le sol s'affaisse un petit peu.
Oui, c'est plutôt ça.
Voilà. De toute façon, le problème, c'est que le plancher...
Mais alors, attendez, pousser d'Archimède sur les banquises, expliquez-moi un peu, parce que...
C'est comme un iceberg. L'iceberg fond, mais la partie émergée et la partie immergée de l'iceberg...
C'est la même chose.
Ça donne le même volume d'eau.
Oui.
L'eau en gelant a augmenté de volume.
Voilà.
Bon.
Donc elle est
plus... Après, il y a la couchée d'Archimède. Donc, comme l'eau est plus légère,
elle flotte.
La glace monte.
Oui.
Bon, mais après, l'eau retrouve sa densité.
Ah, vu. Et d'accord. Donc, en réalité, c'est le même. Voilà.
Redescend.
Mais d'accord. C'est pas Archimède, ça.
Ça ne peut pas être Archimède, il n'a jamais connu Lewski, ça je vous assure.
Bon, bah, non,
par contre, bon. Sur les cycles solaires, on peut peut-être
attendez,
dire que...
Oui, deux secondes, mais quand même, regardez un peu. C'est un journal du soir. Vous avez vu un peu ce qu'ils écrivent. New York veut bâtir des barrages contre l'Atlantique. Et puis en dessous, l'océan sera bientôt... Non mais c'est de la folie. On est en train de manipuler les gens.
On a déjà lu ça il y a longtemps.
Donc c'est un thème récurrent de la propagande.
D'accord.
Je viens de vous dire que James Hansen, en 88, a fait des prévisions pour 2018 qui n'ont pas été vraiment vérifiées. Il s'est simplement trompé d'un facteur 30. En 1987, quelqu'un de la météo allemande prédisait 1,50 m, plus 1,50 m en la Baltique. Rien de tout ça, c'est toujours plus 1 mm par an, ou plus 2 mm par an. Et maintenant, le GIEC nous annonce...
7 mètres, là.
7 mètres, ou 1 mètre, on peut raconter ce que l'on veut. Par contre, quand vous faites la division, vous prenez 1 mètre, vous divisez par 80 ans. C'est à peu près ce qu'il nous reste d'ici l'an 2100. Donc, ça vous fait 1 cm par an.
D'accord.
C'est 5 fois plus, voire 10 fois plus, que ce qui est observé actuellement.
Et alors, justement...
Et observé depuis longtemps, oui.
Parce que François me disait récemment qu'effectivement... Toutes les données réelles d'observation d'un certain nombre de marégraphes oui,
sont en ligne sur Internet. Vous tapez psmsl.org et vous cliquez sur le marégraphe qui vous fait plaisir.
Avec tous les marégraphes.
Marégraphe, ça s'appelle. Hein.
Un marégraphe.
C'est la base que vient de donner Camille.
psmsl.org.
psmsl.org.
Et c'est là que SMSL. L'eau monte partout,
PSMSL. Permanent Sea Level Monitoring Service.
Bon. C'est, elle commence à devenir de la folie quand même là. Parce que où on va nous prendre pour des fous.
Non, mais attendez.
Où les gens sont des sacrés manipulateurs.
Non, mais le problème, c'est qu'il y a une grande urgence. C'est une urgence financière.
Ah oui. Oui, bien sûr.
Tous les gens qui ont investi dans les hedge funds, et M. Obama, avant d'être président, il travaillait sur des hedge funds verts, a priori, sauf si je me trompe, à Londres. Tous ces gens-là veulent un peu voir revenir leur argent. Vous avez même un truc qui est absolument hallucinant. C'est une déclaration, je crois, d'une héritière Rockefeller, un truc comme ça, qui dit que pour le moment, ils avancent de l'argent... aux pays qui vont devoir se protéger et qui verront plus tard les conditions du remboursement. C'est quand même...
C'est de l'arnaque.
C'est quand même extraordinaire. Il faut bien voir que ça a commencé au travers du World Green Building Council. C'est-à-dire que dans votre vie de tous les jours, on vous impose des normes qui n'ont absolument pas lieu d'être.
Oui, tout à fait.
Moi, je m'occupe d'un bâtiment, si vous voulez, pour être certifié HQE. Il a fallu déjà débourser...
HQE, c'est haute qualité environnementale.
Oui. Oui. Il a fallu débourser 250 000 euros, et on peut estimer à peu près 5% du prix du bâtiment
on comprend.
Les mesures qui ne servent à rien.
D'accord.
C'est-à-dire que vous avez des gens qui, toujours pareil, on veut accroître sa part de marché, on veut accroître ses bénéfices, etc. Et donc, on a trouvé une façon de légitimer tout ça, c'est de sauver la planète.
Oui,
et comme dès l'école... Tous les mômes, on les sature là-dessus.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire, tout est développement durable. Quand vous lisez les bouquins des mômes, hein. Vous avez même à Haute-Provence, à l'Observatoire de Haute-Provence, qui est l'équivalent un petit peu des observatoires de l'hémisphère sud, c'est là où ont été trouvées les premières exoplanètes. Vous avez aujourd'hui alors, un établissement qui est un état absolument lamentable. Hein. C'est ce qu'on appelle le durable qui ne dure pas. Mais par contre, vous avez des grands panneaux où on ne vous parle pas des planètes, mais on vous parle du développement durable et comment on regarde la taille des chenilles et le nombre d'épines de pin sur les arbres. Bon, dans un observatoire, je pense qu'on est peut-être venu voir autre chose.
Alors, allez-y, Alain.
Alors, un autre commentaire venant d'auditeurs. Comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer sur vos ondes, la climatologie n'est pas une science linéaire. Elle est donc, de surcroît, imprédictible. Le changement climatique est un fait, mais il est corrélé aux cycles solaires, notamment ceux de Maunder, de Hort, de Wolf et de Dalton, auxquels il faut ajouter les AMP, les anticyclones mobiles polaires, décrits par Marcel Leroux, Cela représente une mécanique fort complexe, seulement résolvable par des chaoticiens étrangement absents du GIEC.
Je ne peux que souscrire et rappeler que Marcel Leroux, feu Marcel Leroux, était un vrai climatologue, un géographe, et qu'il a découvert en étudiant l'évolution de la limite de la mousson en Afrique, c'est l'effet des hautes pressions. Les hautes pressions qui s'appellent les anticyclones. Et il faut rappeler que toute la météo, c'est simplement le baromètre. C'est pas tant le thermomètre, c'est le baromètre qu'il a fait.
Ce qui est certain quand on parle de dérèglement climatique, c'est qu'il n'y a jamais eu de règlement climatique.
Oui, effectivement, vous avez simplifié le problème.
Je voudrais, ce stade, vous demander, poser une question. Dans la vallée de Chamonix, on sait très bien qu'on a retrouvé des contrats de pâturage, ça s'appelle l'esturage, qui sur des champs, donc on est au XIIIe siècle, qui aujourd'hui sont toujours couverts par des glaciers.
Absolument exact. Et on a donc depuis, la figure que j'ai en tête remonte à 1500 à peu près, la croissance de la langue glaciaire de Chamonix ou du glacier.
La vallée blanche, oui.
De la vallée blanche, jusque vers 1600. Un grand maximum qui s'étend jusqu'en 1860, et depuis 1860, une régression. Et c'est très parallèle au plus grand glacier européen, qui est le glacier d'Aletsch en Suisse, qui a fait l'objet d'études très détaillées, où l'on constate que la langue glaciaire a été à peu près au même niveau qu'actuellement, voire un peu plus courte encore, à l'époque minoéenne, moins 1200, à l'époque romaine, vers moins 100, oui. À l'époque médiévale, et comme elle l'est maintenant.
Ouais. Donc ce sont des cycles de combien de...
Oui, voilà. Presque 1000 ans, celui-là.
Là, c'est un cycle de 1000 ans assez bien établi.
Au XIIIe siècle à maintenant, ça fait 7-8 siècles. Ça ne fait pas encore...
Non, ça n'est pas au bout du cycle.
Au XIIIe siècle, c'était le début de la remontée.
D'accord.
Donc le début du refroidissement. C'est pas sérieux. Chrono... Le maximum. Oui. Le minimum de la longueur, si je puis dire, du glacier, était vers l'an 1000. 1200, puis avec quelques...
Là, c'est l'an 1000, donc c'est là où le glacier était le plus petit.
Le plus court.
Le plus court, oui.
Mais il paraît qu'on a mangé des fraises à Lille pour Noël, dans l'entour de l'an 900. Mais enfin bon,
ah bon,
des chroniques, mais maintenant j'y étais pas.
Hein. Et les Chinois ne produisaient pas à l'époque.
Mais alors, tout cela, est-ce que c'est corrélé, Gami, parce que le problème il est là, est-ce que c'est corrélé avec ce qui, pour vous, est véritablement l'explication profonde, à savoir les taches solaires?
Les taches solaires sont une manifestation du champ magnétique solaire.
Oui.
C'est une autre manifestation qui a été observée depuis les Chinois qui avaient de bons yeux depuis le XIIe siècle et depuis le télescope de Galilée. Uh-huh. Donc on a des séries d'observations qui permettent d'établir ce que constatait l'astronome Herschel en 1800, par exemple, une bonne corrélation avec les prix du blé.
D'accord.
Et ce que mentionne l'auditeur, ce sont évidemment les périodes de grande détresse, de famine, bien marquées, et qui correspondent à des minima bien établis du nombre de taches solaires, c'est-à-dire du magnétisme solaire. Du champ magnétique du Soleil, et incidemment, probablement, à des maxima du flux de rayons cosmiques. Donc, plus de nuages.
Donc, on est quand même dans une période où il y a un changement que vous expliquez actuellement par les rythmes du Soleil, de ce qui est en train de se faire, plus d'autres cycles, etc. Mais l'homme n'y est pour rien.
Je voudrais rester très terre à terre. On a des mesures de nombre d'heures de soleil et du flux solaire reçu en surface depuis une cinquantaine d'années. Et puis, c'est bien corrélé avec le nombre d'heures d'insolation qui se retrouve plus aisément chez les historiens. Et aussi bien des études chinoises très nombreuses que des études européennes montrent une parfaite corrélation entre les températures en un endroit et le nombre d'heures d'ensoleillement.
Alors, quand on nous parle d'événements météorologiques beaucoup très rapides, inexplicables, etc., il y en a un qui est assez intéressant historiquement parlant, c'est l'histoire de la construction de la cathédrale de Chartres. La cathédrale de Chartres est la seule cathédrale en France qui a été construite d'une traite. Et suite aux mauvaises récoltes de blé pendant 10 ans, la construction de la cathédrale de Chartres s'est arrêtée. Alors, à quoi ça correspond, très difficile de le dire, mais ça montre bien qu'il y a eu un brutal changement dans les conditions météo à cette époque.
Oui, mais enfin, vous semblez dire quoi ? Parce que les...
Non, on vient toujours nous dire les choses changent à une vitesse à laquelle, comme elles n'ont jamais changé, que si, que ce, que ça. Bon, non, en fait, ce n'est pas vrai. Vous le disiez vous-même, il y a des champs qui se trouvent aujourd'hui sous la mer de glace. Et je vous dis, il y a un événement, parce qu'en plus, il y avait un enjeu pour la construction de cette cathédrale. Les gens n'ayant plus de récolte, ils ont cessé de financer la cathédrale. Ça a duré 10 ans. Et ça s'est arrêté net, ça n'a jamais repris. C'est donc il y a eu un changement climatique, au moins dans la Beauce. C'est brutal.
Les prix du blé. Voilà.
Et le prix du blé, oui. Il devait être très cher, le blé, à l'époque, mais pas assez.
Alors, si on revient maintenant, parce qu'il faut faire un peu la synthèse pour nos auditeurs. Le fondement, le CO2 n'est pas la cause, l'anthropologie, enfin l'homme sur la Terre, n'est pas la cause du réchauffement climatique. Ce sont des cycles, etc., ce sont des choses qui sont corrélées, effectivement, aux tâches en partie. Et donc, on a aussi un cycle récurrent tous les 1000 ans, etc.
Il y a une superposition de cycles, 1000 ans, 60 ans ou 70 ans, 215 ans et même 417 ans. Ce sont des constatations, des observations.
Et là, on sort d'une période...
Mais l'explication de ces cycles, pris un par un, on sait à quoi est dû le cycle de 60 ans. C'est la position du Soleil par rapport au centre de gravité du système solaire. Mmh. Il est perturbé par les grandes planètes Jupiter et Saturne.
Déjà Jupiter ?
Oui.
Pourtant, il est élu il n'y a pas si longtemps que ça.
Par contre, les cycles de 1000 années sont moins bien expliqués.
Bon, mais le CO2 n'est pas la cause.
Le CO2 est une conséquence, pour cette raison toute bête, que le cycle du carbone, c'est le CO2 qui est dégazé par les océans dans la zone intertropicale et qui va alimenter la végétation. Et il a été observé, c'est là un point très important et qui met à bas toutes les théories du GIEC, il a été observé un fort verdissement de la planète par les satellites qui depuis 1975 ou 1978 mesurent la quantité de chlorophylle à la surface du globe. En effet, l'absorption du flux solaire aux fréquences d'absorption de la chlorophylle sont mesurées. Et on a un verdissement de la planète à peu près proportionnel à la teneur de l'air en dioxyde de carbone. Et il y a eu d'autres observations par des marqueurs indirects. Et la dernière publication de 2017 sur ce sujet est plus 31% au cours du seul XXe siècle sur la productivité primaire nette de la végétation. Ce qui veut dire qu'un quart de ce que l'on a à manger aujourd'hui est dû à cette augmentation de la productivité de la végétation qui a accompagné et suivi l'évolution des températures et donc le dégazage océanique du carbone. Et j'insiste sur le fait que le carbone, c'est un peu comme la vapeur d'eau, cette comparaison boiteuse, mais significative, qui est, ça dégaze dans la zone chaude, à cause de l'effet de température nié par Roger Revel et par le GIEC, ça va ensuite se répandre dans tout l'hémisphère, dans tout le globe, et c'est absorbé par la végétation à proportion de la pression partielle, de la teneur de l'air en dioxyde de carbone. Donc plus il y a de dioxyde de carbone dans l'air, plus il est absorbé par l'océan, plus il est absorbé par la végétation. Mais quand on fait une analyse comparative des températures et de la croissance sur 12 mois des teneurs en dioxyde de carbone, elles sont superposables. C'est la même courbe qui est la température de la zone intertropicale où ça dégaze et la variation sur 12 mois du dioxyde de carbone. Donc, c'est une parfaite vérification de ce que le dioxyde de carbone sort de l'océan, est une conséquence des températures, et que ce dégazage océanique a eu des effets extraordinairement bénéfiques, puisque c'est le quart de la nourriture de ce que nous mangeons.
Vous voulez intervenir, monsieur?
Oui, alors je veux intervenir, c'est que par rapport à ça, il faut bien aussi se rendre compte, c'est que si on va vers une période de refroidissement, avec un cycle qui est déphasé, parce qu'il y a une partie du CO2 qui est captée par les plantes, mais on va avoir une baisse mondiale de la teneur en CO2 de l'air et donc des rendements agricoles. Donc à un moment donné, il va falloir choisir qui va devoir ne pas manger.
D'accord.
Alors je voulais juste aussi par rapport à ce problème-là, parce que c'est très mode, nous avons un président qui nous a annoncé que nous étions dépendants principalement du soja brésilien. Si mes informations sont exactes, on importe 75% de soja américain, 21% de soja brésilien.
D'accord.
C'était une petite remarque. Et puis, une autre chose qui est intéressante, c'est une conséquence, c'est qu'on observe actuellement que dans les savanes, bon, il y a plusieurs types de synthèses chlorophylliennes, notamment les C3 et les C4. Alors les C3, c'est, on va dire, ce sont les feuillus et les plantes de nos latitudes. Et on observe aujourd'hui que les C4, qui sont typiquement des plantes des savanes, donc un certain nombre de céréales, etc., eh bien que les C3 sont en train de reconquérir l'espace d'une partie des savanes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un cycle énergétique, un cycle de synthèse qui est plus simple au niveau chimique. Et donc, ces plantes se développent plus vite que les plantes de type C4. Alors, une autre vraie étude qui pourrait donner lieu à des études autrement que bidon sur le développement durable, c'est que les singes ont continué à manger des plantes de type C3 et que les hommes mangent des plantes de type C3 et C4. Donc, est-ce que la modification de leur cerveau est due à la présence d'acides aminés qui n'existaient pas avant? Ça, c'est un vaste débat. Mais je veux dire, c'est au moins un sujet qui n'est pas lénifiant. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir du pognon pour faire une étude, si vous dites je veux étudier la sexualité des escargots de Bourgogne aux yeux bleus, on va vous dire, monsieur, c'est pas possible. Par contre, je veux étudier l'impact du réchauffement climatique sur la sexualité des escargots de Bourgogne, bienvenue, cher monsieur, on vous met tapis rouge et on vous envoie de l'argent.
On va changer Jupiter par Chita, quoi. J'ai bien compris.
Peut-être.
Cette perversion de la recherche scientifique date de Roger Gérard Schwarzenberg, qui a annoncé, j'ai mis comme président du CNRS Gérard Mézy, c'était en 1997, ce grand spécialiste de la couche du trou d'ozone et de l'effet de serre.
Ça, c'était en quelle année, alors ?
1997.
Il est encore ministre de quelque chose, il a toujours été ministre
de la recherche. Il était ministre de la recherche.
Secrétaire d'État, tout. Il n'y a rien. Oui. Autre question.
Question d'auditeur.
Le temps tourne, hein.
Voilà. Les partisans du GIEC et leurs opposants raisonnent tous par idéologie arbitraire. Par contre, ils ont un dénominateur commun, ils évacuent l'immigration et l'empoisonnement général de l'atmosphère à cause de la circulation aérienne.
Oui, mais voilà. C'est bien. Bon.
Non, la pollution, ouais. le trafic aérien...
Ils vont se lever les dents. Ça,
mais c'est pas là, ce sont surtout les grands cargos et de la marine marchande. Tout voilà.
Le CO2, c'est la nourriture des plantes, la nourriture de tout ce qui vit sur Terre.
Si vous voulez qu'un moteur bien réglé produit avant tout du CO2, avec, en fonction de la température de combustion, évidemment, plus ou moins d'oxyde d'azote. Mais si vous voulez, si un moteur est performant et qu'il marche au fioul lourd,
ce qui se dégage des paquebots et des cargos, c'est pas du CO2. Hein.
Non, non.
C'est quand même des choses beaucoup plus lourdes.
Oui, voilà, alors là, des commentaires de choses qui ont plus ou moins été dites. Oui. Le trou d'ozone, le trou d'ozone 2. Il est apparu quand les brevets concernant les CFC allaient tomber dans le domaine public. Oui, ça a déjà été dit.
C'est ce que nous avons dit tout à l'heure.
Très précisément. Voilà, la société propriétaire des brevets était Dupont de Nemours. Voilà. Ensuite, donc un commentaire de ce qui a déjà été dit quand même. Le Groenland, on y cultivait la vigne. Et
il fallait bien du vin de messe.
Voilà, voilà. Et il y a un rappel historique. Hannibal a traversé les Alpes sans la neige. Et avec ses éléphants.
Les éléphants n'aimaient pas des animaux.
N'aimaient pas la neige.
Raquette.
Oui, voilà. C'est vrai que sur les skis, on n'en voit pas de trop. Est-ce que sur le problème du climat, parce qu'on a fini la première partie de cette émission, est-ce que sur le problème de ce changement climatique, vous avez quelque chose à ajouter ? Sans ça, j'interroge tout de suite notre ami Jacques Miard.
Non, moi je voudrais quand même, parce que attendez, j'ai écouté tout ça avec beaucoup d'intérêt. Moi, ce qui m'a toujours frappé, et d'ailleurs, je passe mon temps à le dénoncer, sont les effets panurges. C'était que tout d'un coup, le politiquement correct, c'est que tout va dans cette direction, ou une direction. Et puis, il y a un moment, boum, on s'aperçoit, non, c'est pas ça. Il faut changer. J'ai été très frappé par ce que vous avez dit sur, effectivement, ce qui a été à un moment la crainte des pluies acides. Hein, qui sont révélés du bidouillage, quoi, etc. Tout ça, c'est faux. Et donc, je voudrais quand même, parce que en tant que petit décideur politique ou procédure d'alerte sur ne vous faites pas manipuler à longueur de temps, parce que comment peut-on véritablement, je dirais, secouer le cocotier ? Bon, là, on vient de faire une émission qui a visiblement beaucoup d'écho chez nos concitoyens. Et il y en a un certain nombre de personnes qui disent, en effet, en citant des scientifiques qui ont réagi contre. Mais est-ce qu'à un moment ou un autre, comment peut-on, je dirais, faire tomber la manipulation ? Parce que c'est ça le point le plus important. Parce qu'il y a manipulation avec des intérêts financiers derrière qui souhaitent récupérer la mise. Soit en vendant des éoliennes bidons, soit avec des...
En faisant rajouter 30 cm de laine de verre sur votre maison.
Vous voyez, des choses comme ça. Oui.
La première ministre du Danemark vient voir M. Macron pour réclamer la transformation de la Banque européenne d'investissement en banque pour le climat. Et pourquoi ? Vestas est le principal fabricant d'éoliennes, est une société danoise, 75 milliards de capitalisation et 15 milliards de chiffre d'affaires.
60 000 éoliennes installées dans le monde.
Ça, c'est bien, c'est du beau business, ça.
Mais ça, il faut le dire, je le répéter.
Parce que les éoliennes ne se vendent, évidemment, qu'à cause des privilèges extravagants accordés aux dépens des autres acteurs du réseau électrique, aux promoteurs des éoliennes. Voilà. C'est une contrainte d'État.
Oui, bien sûr.
Double et triple les prix.
Messieurs, si vous permettez, question, parce qu'il nous reste très peu de temps.
Trois derniers points d'auditeurs. Il est dommage que la question posée concernant le battage médiatique et ses intentions ait été empêtrée et censurée de questions probablement essentielles dans l'affaire. Pourrait-on avoir plus de détails quant aux projets et actions de M. Soros ? Alors ça, c'était effectivement...
Oui, c'est un point essentiel. Soros,
voilà, mais vous l'avez commenté.
On a quelques éléments sur le financement. Vous avez aux États-Unis 193 ONG participant au réchauffement climatique. Au Canada, 103. En Australie, 69. Au Royaume-Uni, 30. Au Danemark, 25. En France, 23. Et tous ces gens émargent. Évidemment, ils sont financés et ils sont fédérés dans Climate Action Network International, qui est des ONG membres dans plus de 120 pays. Et il y a 1300 ONG membres de Climate Action Network qui, en France, a été mis en place dans les années 1988-90 par les ministres de l'Environnement de l'époque. Si vous... qui était destiné à servir de caisse de résonance, a été financé par l'État, pour ainsi dire, de manière à ce que le ministre ait des échos.
Qu'est-ce que vous entendez par échos ?
Pas qu'on lui dise, oui, monsieur le ministre.
Ça dépend comment raison. On l'écrit.
Il y a plusieurs. On est dans la logique du GIEC, c'est-à-dire qu'on fabrique l'information.
Non, non, mais c'est pire que ça.
On fabrique l'adversité en plus.
Non, mais c'est pire que ça. On est face aujourd'hui à des ONG qui sont franchement manipulées et qui prétendent être la société civile. Ils prétendent. C'est ça le drame.
Ils ne sont pas plus,
moi, la société civile que je suis évêque, et il y a une marge. Bon, donc, il est clair qu'on a affaire à des gens dont c'est le fonds de commerce, qui vivent pour ça. Mais, et effectivement, vous présentez avec ONG en disant, mais nous, on sait que c'est réchauffement climatique. Non. Donc, on arrête de penser.
Il faut revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'ingénierie humaine a montré que si vous saturiez la case empathie d'un individu, il vit très mal de ne pas être encore en accord avec cette empathie.
Oui, jusqu'au moment tout d'un coup, il y a effectivement la Pentecôte, une intelligence qui tombe, et à ce moment-là, c'est dramatique pour ces gens-là.
Absolument.
Parce qu'ils sont complètement déboussolés. C'est un phénomène sectaire. C'est un phénomène sectaire. Je connais bien les phénomènes sectaires pour avoir participé à 3 commissions d'enquête. Je peux vous dire, vous tombez dans un phénomène sectaire, et là je suis d'accord, lorsque vous êtes dans un moment d'inquiétude, etc., un mauvais moment, et puis tout d'un coup, aucun argument rationnel ne porte sur quelqu'un qui est dans cette... Aucun rationnel...
C'est
bon,
clair.
En revanche, tout d'un coup, paf, oulala, je me suis laissé embarquer, voilà. Etc. Où vais-je ? Donc, ce qu'on doit dire, vous êtes une ONG et vous... Bon, très bien, mon gars, continue comme ça, tu vas dans le mur. Tu verras, ça fait mal.
Alors, déjà, c'est 50% de votre facture d'électricité. Hein.
Camille, allez-y.
Non, monsieur, vous dites exactement ce que disait le docteur Accoyer, à savoir, mes députés de la Savoie...
Oui, c'est leur copain.
À savoir que c'est un phénomène sectaire.
Oui,
oui. Oui, très bien. Bravo.
Il a analysé ça de manière approfondie.
Alain, allez-y, poursuivez.
Deux derniers points. C'est l'inclinaison de la Lune par rapport au Soleil qui nous change le climat. Ainsi, on a trouvé en France des fossiles de crocodiles.
À l'Élysée.
En Île-de-France. En Île-de-France.
Non, mais ça, c'est autre chose.
Et à Bercy.
Non, mais ça, il est clair que le bassin parisien, il y a quelques temps, il y avait des mers, non ? C'est pas ça ?
Il n'était pas au même endroit, non ?
Oui.
Voilà, et un dernier commentaire, on va terminer là-dessus. Émission formidable, GIEC égale fumisterie. Que devient Al Gore ?
Oui, bonne question.
Il gagne de l'argent sur les droits d'émission du carbone. Et il gagne de l'argent sur les fonds verts. Puisque sa Generation Investment Management, je ne sais plus quoi, Limited à Londres, lui a fait effectivement gagner beaucoup, beaucoup d'argent.
Alors, il y a un truc très drôle sur Al Gore, c'est qu'il y a eu des photos qui ont été publiées de maison d'Al Gore et celle de Bush. Alors, maison Bush, c'est texan en bois, planqué du soleil, etc. Maison Al Gore, c'est cube en béton avec conditionneur sur le toit, mais ça c'est pour le développement durable. Voilà.
Vous savez, on a eu des ministres de l'environnement qui se baladaient en 4x4. Donc c'est dans le même ordre. Suivez mon regard. Et parfois, qui faisait des émissions d'hélicoptères à tire-larigot.
Ce que je voulais juste peut-être pour terminer, parce que
je vais vous demander justement de conclure.
Voilà.
Attendez.
On a le temps encore.
C'est juste pour vous dire.
C'est là-bas que ça se passe.
Il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps, M. Bousselalonde a déclaré qu'en France, on était un petit peu campagnards, qu'on ne comprenait pas les enjeux du monde. Alors moi, par contre, si vous voulez, pour un ministre de l'écologie, il se trouve qu'avec ma compagne, on se promenait à Saint-Briac le long de la mer, et puis à un moment donné, on est tombé dans des piquants, des machins, des trucs. Et puis donc, on a passé par-dessus, puis il y a un grand roux là... un peu genre écossais, là, qui est venu nous dire, alors que c'était pas bien, parce que c'était une propriété privée. Parce que moi, j'ai dit que je pensais bêtement qu'il y avait un truc, ça s'appelait le sentier des douaniers, un truc comme ça.
Non, mais puis c'est le domaine public.
Attendez, c'est pas fini. Et le type m'a expliqué que oui, ils étaient de la famille Forbes, et très lâchement, il m'a pas dit les Forbes, donc du business, etc. Il m'a dit les Forbes de l'édition. C'est pas les mêmes familles.
Voilà. Alors,
par contre, le maire de Saint-Briac n'a pas fait...
Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont...
Ils sont exorbitants du droit.
Jacques, s'il vous plaît, on arrive à la fin de notre émission. Alors, je trouve que c'est une émission qui a été formidable. D'ailleurs, on voit les réactions des auditeurs. On a plein de messages. Messages en plus d'une sacrée qualité. Il y a des gens qu'on cherche, etc. Je vais vous laisser à chacun 2 minutes pour conclure. Et après, on coupe le micro. À vous, monsieur Ozol, si vous voulez bien.
Écoutez, pour conclure, moi, je vais essayer de faire réaliser une bande dessinée pour les prochaines élections municipales et puis aussi à destination des enfants, parce qu'actuellement, on leur mange le cerveau dans les écoles à tout bout de champ avec le comportement durable. On parle même de mettre là des commissaires politiques en herbe dans les écoles pour le développement durable, avec tout un tas de bonnes idées sur trier les ordures, j'en passe et des meilleures, mais surtout, on n'apprend pas à acquérir des notions qui pourraient être utiles pour comprendre les mécanismes.
À vous, monsieur.
Ce qui est le plus terrifiant pour le moment, c'est la propagande. J'ai entendu une conférence de Jean-Marc Jancovici il y a peu de temps, des déclarations de François-Marie Briand dans Libération, visant à la suppression de toutes les libertés et à la suppression de la démocratie au nom de l'urgence climatique. Et cela avait déjà été, en 2011, publié dans un rapport d'environ 450 pages par le Conseil allemand auprès de Mme Merkel pour les transformations de la société. Et de plus en plus, on nous affirme que sauver le climat est incompatible avec la démocratie.
Alors, je vous remercie.
Encore 2 minutes, nous dit notre technicien.
Oui, mais
vas-y. Oui.
Alors, je rappelle le livre que vous avez écrit en commun, Réponse à l'écologisme, qui est paru chez L'Harmattan. Je voudrais rappeler qu'on avait invité ici un spécialiste des énergies qui s'appelait Maurice Rennes. Jacques Mire, vous rappelez, vous l'aviez invité avec Claude Sicard à l'Assemblée nationale. Je remercie pour tous les travaux que ce monsieur a fait et tout ce qui nous fait, ce qui nous passe encore comme document. Pour la conclusion, allez-y, on reprend nos invités.
Vous êtes sur Radio Courtoisie, vous écoutez l'émission Le Libre Journal de la France Libre, dirigé par Henri Foucrot. Aujourd'hui, nous traitions du problème climatique, le climat, le GIEC et la naïveté française. Nous recevons Monsieur Jean-François Ozol, ingénieur de l'École centrale de Paris, Monsieur Camille Vert, ingénieur de l'École polytechnique de l'École supérieure des télécommunications, ingénieur au corps des mines et professeur de statistique à l'École supérieure des télécommunications. Et enfin, Monsieur Jacques Miard, député honoraire, maire de Maisons-Laffitte.
Alors, merci, chers auditeurs, d'être fidèles. Nous vous retrouvons dans 2 minutes exactement. Notre invité et homme de l'art en la matière sera Jacques Miard, membre honoraire du Parlement et maire de Maisons-Laffitte. Nous allons parler un petit peu de ce qui se passe justement dans les communes avec la fiscalité. Nous parlerons aussi du Proche et du Moyen-Orient parce qu'il s'y passe des choses. Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du renseignement, ce qui s'est passé malheureusement à Paris. Je vous dis à tout de suite.